Oui, à toutes des toutes premières sessions qu'on a eues, on a eu une présentation sur les processus financiers dans leur ensemble, et avec une remarque qui était très frappante, qui était de dire que finalement aujourd'hui, on constate qu'il y a une proportion absolument gigantesque, je ne sais plus si c'était 80% ou autre, des processus financiers qui sont en fait des processus endogènes qui tournent en rond et qui ne créent rien d'utile, on va dire, pour l'environnement, sauf de créer du mouvement pour les financiers. Quand on vous entend et qu'on voit que ces locaux ils sont réoccupés par des gens qui sont déjà là, et que parallèlement, si j'ai bien vu les chiffres, 90% de ces locaux sont réachetés ou réoccupés par les gens qui les financent, est-ce qu'on n'est pas là-dedans exactement dans le même processus?
D'autres commentaires? Peut-être moi je pourrais ajouter à ce point. Donc, s'il y a un jeu de chaise musicale où les entreprises vont toujours dans les endroits neufs, qui à la fin finit par payer les friches qui restent des endroits qui n'ont plus de valeur de marché, qui sont encore en très bon état, qui pourraient loger des entreprises, mais qui n'ont plus de preneurs, et on va demander à certains acteurs de transformer ça de bureaux en logement, par exemple. Donc, qui prend en charge les restes?
Oui, Benoît Gérardin, Link City, promoteur et aménageur. C'est juste un prolongement, enfin plutôt une réflexion, un prolongement au prolongement que vous avez voulu faire. Moi, je pense qu'il est en train de s'opérer sur le marché du logement qui, jusque-là, est un petit peu épargné par la financiarisation, parce que le logement est plutôt gouverné par les économies individuelles et puis le levier des dispositifs fiscaux, Pinel, Célier, que les gouvernements successifs règlent à chaque fois. Mais il est en train de se passer sur le marché du logement quelque chose d'assez similaire à ce que vous avez décrit sur l'immobilier d'entreprise, parce que le logement devient une classe d'actifs intéressant pour ces gestionnaires de fonds, intéressant par différence avec le reste, puisque les rendements de ce que vous avez décrit se sont écrasés, puisque les taux sont restés bas, et donc finalement le logement devient un produit, compte tenu du risque qu'il représente, assez rentable. Et donc on voit arriver de manière massive les capitaux de ces gestionnaires de fonds sur le marché du logement. Et donc ce qui va entraîner en fait un cycle assez similaire à celui que vous avez décrit, c'est-à-dire une financiarisation complète du marché du logement. On va retrouver de manière massive une ville qui va être financée, donc et nourrie par les capitaux de notre épargne retraite, et donc une financiarisation finalement de ce dernier morceau de ville qui lui était jusqu'à présent épargné. Enfin, moi, c'est le mouvement que je perçois pour ce que votre enquête ne montre pas, parce que vous vous arrêtez en 2015, mais en gros, si vous aviez fait 2016 jusqu'à maintenant, ce frémissement-là, bon, me paraît maintenant assez visible.
Je peux peut-être répondre.
Oui, s'il te plaît, Antoine, est-ce que tu peux faire un petit commentaire? Vous dites l'argent de notre épargne, les fonds d'investissement qui ont cherché de l'épargne, ce n'est pas l'épargne de tout le monde, parce qu'il y a une très grande partie de la population qui n'a pas d'épargne. À un moment donné, on a justifié ce système parce que c'était le socialisme des actionnaires, qu'on allait tenir finalement la croissance des économies par des économies, des systèmes productifs, par l'économie des ménages. En réalité, c'est une fraction pas si importante que ça des ménages qui bénéficient de la redistribution à partir d'accumulations sur le foncier. Hein, et là, les travaux d'économistes comme Piketty montrent qu'effectivement, il y a une part finalement pas si importante que ça, difficile à chiffrer, mais des populations qui en bénéficient. Antoine?
Vous avez une question dans le prolongement de ça. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse une seconde si cette tendance au retour des investisseurs institutionnels, parce que c'est quand même plus un retour qu'une apparition dans le logement, est avérée. Est-ce qu'on peut réfléchir aux avantages et aux inconvénients comparés d'un marché locatif privé qui serait animé par des investisseurs privés dopés à coup d'incitation fiscale, et un marché animé par des investisseurs institutionnels? Parce que moi, je m'interroge.
Le premier volet de questions, si tu veux essayer de...
Oui, alors, pour reprendre dans l'ordre, mais je pense que c'était moins une question qu'un commentaire. Effectivement, en fait, il y a un mouvement de de rotation, enfin ce que vous évoquiez, le fait qu'il y a beaucoup de capitaux de rotation, etc., etc. Là, moi, par exemple, dans ces projets, j'en ai pas parlé là. Il y a des bâtiments qui ont déjà été revendus une fois. Et quand on regarde d'autres projets avec qui sont un peu plus vieux, comme à Saint-Ouen plutôt, bah, peut-être par un kilomètre d'ici, le long du périphérique, qui était déjà une première phase en fait de tertiarisation de Saint-Ouen qui fonctionnait sur ce circuit de financement, il y a des actifs qui ont été revendus déjà 3, 4 fois, 5 fois en fait en 10 ans. Voilà. Et puis sur les locataires, effectivement, on a un jeu de chaises musicales assez fort. J'en parlais tout à l'heure à midi. Paris Rive Gauche, on a une nouvelle tour qui se construit de bureaux et d'hôtels, la tour du Haut. Paris Vanhoe Cambridge, qui est le bras de promotion immobilière, le bras armé de la Caisse des dépôts et consignations du Québec. Bon, quelle est l'entreprise qui va occuper ce bâtiment? C'est Natixis. Ils étaient à 500 mètres, ça a été parmi les premiers occupants de Paris Rive Gauche. On les déplace de 500 mètres. Moi, ça m'interpelle aussi sur le type d'urbanisme qu'on fait. Bon, voilà, est-ce qu'on construit des bâtiments pour qu'ils soient occupés 15 ans ou 10 ans Après, j'imagine bien qu'il y a un agent immobilier, un conseil immobilier qui va être très fort et qui va arriver à trouver une autre entreprise ailleurs dans Paris ou en banlieue pour la ramener dans le bâtiment que Natixis vient de vider. À grand renfort de discours sur l'obsolescence, ça aussi c'est une catégorie sur laquelle on pourrait s'interroger. Il y a eu des travaux très proches des nôtres sur le cas de Chicago, menés par un collègue qui s'appelle Rachel Weber, où elle montre bien que cette obsolescence, c'est comme la convention d'investissement, c'est une construction sociale, et qu'il y a tout un tas d'acteurs, des concerts immobiliers pour toucher des commissions, des promoteurs pour faire des profits, et aussi des aménageurs, parce qu'il faut bien vendre des charges foncières. Il y a tout un tas d'acteurs aussi qui ont intérêt à ce qu'on construise plutôt qu'on réhabilite des bâtiments. Qui paye les friches? C'est une bonne question. Il y a des fonds qui se sont déjà montés là-dessus, donc il y a des acteurs financiers qui ont déjà pensé. Je pense à Brownfields notamment, qui a monté deux fonds là-dessus, qui est lié, je crois, à la banque Lazare ou à Rothschild, je ne sais plus. Donc on a aussi des fonds qui se montent là-dessus. Sur la remarque sur la financiarisation du marché du logement, je suis tout à fait d'accord et intéressé. Et d'ailleurs, je vais commencer des recherches là-dessus, donc ça tombe très bien. Alors, deux réactions. La première... Oui, on était essentiellement sur un marché plutôt de particuliers et de financement bancaire classique, mais donc dopé au quantitative easing et à la titrisation, qui est aussi une forme de financiarisation. Donc on avait déjà des formes de financiarisation permettant l'accession à la propriété, notamment avec des outils du crédit foncier. On observe effectivement que certains investisseurs reviendraient sur le marché du logement. Enfin, il y a tout un discours autour de ça. Il y a des politiques publiques, j'en ai évoqué une qui est le fonds de logement intermédiaire qui s'est accompagné d'un décret qui précisait en fait ce que c'est que le logement intermédiaire et notamment qui visait à améliorer son attractivité fiscale. Moi, la question, mais qui rejoint un peu la vôtre, c'est à quelles conditions en fait, à quelles conditions on va avoir un retour de ces investisseurs sur le marché du logement. Et puis, je ne sais pas si on va avoir une financiarisation complète, puisque ces investisseurs, encore une fois, ils sont sélectifs. Donc il y a beau avoir un mur de l'argent, ce mur de l'argent ne va pas n'importe où. Et donc ils iront là où ils trouveront des rendements. Les premiers résultats qu'on a sur le fonds de logement intermédiaire, c'est que c'est très calqué sur la géographie du Grand Paris Express. En plus, ça tombe bien, comme les capitaux sont bloqués pour 10 ans, ça va plus ou moins coïncider avec l'arrivée des gares, mais donc ça va entretenir un processus de spéculation, et donc c'est autant d'activités et de logements de population qui sont déjà à proximité de ces futures gares qui vont se faire évacuer. Donc oui, en fait, il va y avoir des perdants et il va y avoir des gagnants dans cette financiarisation du marché du logement. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, Ludovic, aussi d'avoir un regard critique sur, en fait, ce que Piketty appellerait peut-être, la, je ne sais pas si l'emploierait le mot de classe, mais que moi j'appelle la classe patrimoniale, c'est-à-dire qu'effectivement qu'une petite partie des gens qui ont accès, qui ont une épargne, ou... voilà. Ce qui donne des premiers éléments de réponse, mais là, sur la question du, voilà, des avantages et des inconvénients du retour de ces investisseurs, mais c'est peut-être aussi un débat qu'on pourrait avoir collectivement. Du côté des avantages, ce que ces investisseurs eux-mêmes vont souvent mettre en avant, c'est que ce sont des professionnels de la gestion locative. Donc par opposition, sous-entendu, à tout un tas d'autres propriétaires qui ne seraient pas professionnels, qui ne seraient pas aussi efficaces, etc., etc., etc. Et c'est exactement le même type de discours qu'ils tiennent quand ils cherchent à étendre leur part de marché sur le bureau en disant « Nous, on est des professionnels de la gestion, c'est notre mandat, laissez-nous faire, on sait faire. » Donc après, sur les inconvénients, donc on peut, à partir de ce qu'on sait dans la littérature et puis de ce qu'on peut imaginer ou de ce qu'on a vu sur l'immobilier de bureau, on peut en imaginer un certain nombre. Ça va peut-être mener à une spécialisation typologique, ça va évidemment trier entre les personnes qui peuvent appartenir au logement, ça va redistribuer, on vient de le dire, que à certaines populations qui ont leur épargne placée là-dedans. D'une manière un peu plus générale, ce que aussi montre la littérature et ce qu'on discute dans nos travaux, c'est qu'on va, en reliant ces marchés immobiliers aux marchés financiers, dont on sait par ailleurs qu'ils sont très volatiles, on risque d'amplifier les effets de cycle sur les marchés immobiliers et sur les marchés financiers aussi en retour. Ça fait 10 ans, mais c'était il n'y a pas si longtemps, la crise financière aux États-Unis, ce qui a été déclenché par la spéculation sur les marchés immobiliers alimentée par la titrisation des prêts d'accession à la propriété. Donc on a une preuve pas si loin de nous de ce que ça peut avoir comme effet. Donc là, c'est plutôt des effets systémiques au niveau de l'économie, donc amplification des cycles immobiliers, donc gonflement des bulles, mais des bulles, ça gonfle mais ça éclate, même s'il y a des débats au sein de l'économie pour savoir si on entre dans des régimes de bulles permanentes, et puis risque systémique au sein des marchés financiers.
Je vous propose qu'on remercie Antoine pour cette présentation.